s'appelle Méliton de Sardes. Il faut que je retrouve mes pages. Alors, ce Méliton habitait donc Sardes, c'est en Asie mineure. Voilà. Et il a adressé une apologie à Marc Aurèle, lui aussi, qu'on date un peu avant celle de Athénagore, entre 161 et 180, où il cherche à montrer que l'Église et l'Empire ont tout à gagner à collaborer et que seuls les mauvais empereurs ont été persécuteurs, ce qui est en fait plutôt inexact. Il dit que le christianisme a fleuri sous Auguste, dont il tresse les louanges, qu'il a été persécuté par Néron, donc Néron qui est très méchant, très vilain, et par Domitien, qui était l'un et l'autre mal conseillé, dit-il, et que cette funeste habitude de persécuter les chrétiens, alimentée par des dénonciations intéressées, vous vous souvenez l'attitude de Trajan par rapport à ça, a été rectifiée par Adrien. Et effectivement, Adrien reprend une politique de ménagement des chrétiens. Alors, je pensais lire un petit passage. Alors, ce texte de Méliton, on l'a que sous forme de fragments, retrouvé chez Eusèbe de Césarée. Voilà, par exemple, encore une fois, on dénonce une des raisons fondamentales de la persécution. En effet, les sycophantes impudents, avides du bien d'autrui, s'appuient sur ces ordonnances pour se livrer sans se cacher au brigandage, dépouillant de nuit comme de jour ceux qui ne sont coupables de rien. Donc vous avez toujours les mêmes choses. L'envie qui fait qu'on dénonce son voisin pour obtenir ses biens, et coupable de rien, sinon du non-chrétien, encore une fois. Donc on ne peut pas faire la preuve qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais on peut faire la preuve qu'ils sont chrétiens en leur demandant s'ils veulent sacrifier, mettre des grains d'encens à une divinité quelconque. Ils refusent, donc ils sont chrétiens, donc ils sont coupables. Vous voyez Voilà. En effet, notre philosophie, vous voyez, on nomme toujours la voie chrétienne une philosophie, a d'abord fleuri chez des barbares, les juifs, et après avoir mûri chez les nations qui sont tiennes sous le grand règne d'Auguste, ton ancêtre, elle est devenue, surtout pour ton empire, un bien opportun. Car depuis cette époque, le pouvoir des Romains s'est accru au point de devenir grand et éclatant. Évidemment, c'est avec la diffusion du christianisme, on assiste aussi à l'apogée de l'empire, mais pas pour les mêmes raisons. Et vous comprenez la déconfiture de saint Augustin au début du 5e siècle, quand précisément on va lui dire, oui, ben, maintenant que le christianisme a rempli tout l'Empire, ben, l'Empire est en train de disparaître sous les coups des barbares, justement. Oui, il dit encore ça. La plus grande preuve du fait que notre doctrine a fleuri en vue du bien avec le recommencement de l'Empire, c'est que ce dernier n'ait connu aucun revers depuis le règne d'Auguste. Mais qu'au contraire, tout sans exception, a été éclatant et glorieux, conformément aux prières de tous. Seul de tous, persuadé par certains hommes médisants, Néron et Domitien ont consenti que notre doctrine fût soumise à la calomnie. Depuis, il est arrivé que le mensonge de la dénonciation du fait d'une habitude irrationnelle se répandit chez leurs semblables. Mais tes pieux ancêtres ont corrigé l'ignorance de ces gens-là, réprimandant par écrit à maintes reprises ceux nombreux qui avaient osé prendre des initiatives au sujet des chrétiens. Parmi eux, il est manifeste que ton grand-père Adrien a écrit à de nombreux destinataires, et notamment au proconsul Fundanus, gouverneur d'Asie, etc. Donc ça, c'est le texte qu'on avait trouvé dans l'apologie de Justin. Voilà. Bon. Voilà ce que dit Mélenchon. Alors Mélenchon, il est aussi connu, pas uniquement pour cette apologie, hein, mais aussi pour une grande homélie pascale qu'il a faite, qu'on a retrouvée, et qui daterait là aussi des années 160-170 à peu près, et qui reflète l'orientation quatuor décimale de l'Asie. Vous vous souvenez que l'Asie avait été marquée par Philippe et l'Asie avait gardé, donc marquée par les judéo-chrétiens qui avaient tendance à célébrer Pâques le jour juif de la Pâque, c'est-à-dire le 14 du mois de Nisan. Et donc ça tombait dans la semaine. Enfin, ça changeait tous les jours, enfin tous les ans. Et les. Alors que l'Église, une grande Église, disons, avait tendance, elle, à respecter le troisième jour, qui est en même temps le premier jour de la semaine, et donc mettre plutôt l'accent sur les jours de la semaine. Et finalement, l'orientation judéo-chrétienne va disparaître. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ils sont du coup, ils manifestent plus d'attention au sacrifice juif de la Pâque. Et toute cette grande homélie pascale, à l'époque, les gens, je vous dis, ils n'avaient pas non plus beaucoup de distractions. Alors, le sermon, ça faisait une distraction. Eh bien, elle va développer cette idée. Alors, il y a un bref prologue, les 10 premiers paragraphes, qui reprend le chapitre 12 de l'Exode, autrement dit, le sacrifice de la Pâque, la sortie d'Égypte. Puis, une deuxième partie, paragraphe 11 à 45, qui va paraphraser et dramatiser l'ancienne Pâque, en développant les événements, en rajoutant un peu, en parlant de Pharaon qui est dans la qui s'inquiète, etc., etc. Et puis et en même temps en préparant une interprétation typologique des événements, en prenant certains événements et en disant ça va être des événements prophétiques qui vont renvoyer à un accomplissement qui sera précisément la Pâque du Vendredi Saint. Et justement, la troisième partie, les paragraphes 46 à 65, va expliquer la cause de la Pâque du Christ, c'est-à-dire l'extension du péché après la chute d'Adam. Et alors là, je peux vous dire, les Juifs en prennent un sale. Enfin, ils sont allumés un peu, quoi. Disons, peuple toujours qui a jamais été fidèle, etc., etc. Et en même temps, ils montrent comment Dieu mettait les prophètes qui déjà annonçaient ce qui allait être la rédemption d'Israël, en fait. Donc les types du salut dans l'Ancien Testament, Abraham, etc. Donc les grands personnages qui vont devenir des figures prophétiques du Christ. Et la quatrième partie, eh bien, elle explique la nouvelle Pâque et elle est un appel à la fois aux Juifs pour sortir de leur infidélité et de leur habitude de ne pas écouter Dieu, finalement. Donc les appels à la conversion et aux nations pour qu'elles accueillent la révélation chrétienne. Et que les uns et les autres, donc judéo-chrétiens et pagano-chrétiens, eh bien, reconnaissent la vérité du christianisme, et donc évidemment les païens à travers les juifs. Alors par exemple, c'est un très très beau texte, je vous en lis juste un paragraphe. Alors, qui joue beaucoup sur les antithèses. Vous voyez, un peu comme le livre de la Sagesse, qui a aussi un commentaire de la sortie d'Égypte, hein, le chapitre 18 du livre de la Sagesse. Alors, voilà. La rédemption, c'est préfiguration. Mais d'abord, le Seigneur a disposé d'avance ses propres souffrances dans les patriarches, les prophètes et dans le peuple tout entier, les ayant scellés par la loi et les prophètes. En effet, l'avenir qui doit se réaliser d'une manière nouvelle et grandiose est disposé depuis longtemps, afin qu'au moment où il se réalise, il obtienne créance, parce qu'il a été préfiguré depuis longtemps. Ainsi, précisément, le mystère du Seigneur, parce qu'il a été préfiguré depuis longtemps, alors qu'il n'est rendu visible qu'aujourd'hui, obtient créance une fois accompli, bien qu'il soit tenu pour inouï par les hommes. Car le mystère du Seigneur est ancien et nouveau, ancien en regard de la figure, nouveau en regard de la grâce. Mais toi, si tu regardes vers cette préfiguration, tu verras le vrai à travers son accomplissement. Ainsi donc, si tu veux voir le mystère du Seigneur, considère Abel pareillement assassiné, Isaac pareillement lié, Joseph pareillement vendu, Moïse pareillement exposé, David pareillement poursuivi, les prophètes pareillement souffrant à cause du Christ. Considère également le mouton immolé en Égypte, celui qui frappa l'Égypte et qui sauva Israël par son sang. Mais c'est aussi par la voix des prophètes que le mystère du Seigneur a été proclamé. En effet, Moïse dit devant le peuple, « Et vous verrez votre vie suspendue devant vos yeux, nuit et jour, et vous douterez de votre vie. » Deutéronome 28, 66. David a dit, « Pourquoi les nations ont-elles grondé et les peuples ont-ils formé de vains desseins? Les rois de la terre se sont avancés et les chefs se sont rassemblés en un même lieu contre le Seigneur et contre son Christ. » Le psaume 2. Et Jérémie, « Moi, j'étais comme un agneau innocent mené au sacrifice. Ils nourrirent contre moi de mauvaises pensées, disant, « Allons, jetons du bois dans son pain. » Ah oui, vous vous souvenez, Zita, une fois, on s'était posé cette question, pourquoi il y avait du bois dans le pain? Voilà. Alors, jetons du bois dans son pain, arrachons-le à la terre des vivants, et l'on ne se souviendra certes pas de son nom. Et Isaïe, « Comme un mouton, il a été emmené pour être immolé, et comme un agneau sans voix devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Sa génération, qui la racontera ?» Bien d'autres choses ont été proclamées par nombre de prophètes en vue du mystère de la Pâque, qu'est le Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est lui qui, descendu du ciel sur la terre, pour celui qui souffre, l'a revêtu par le sein d'une vierge, et devenu homme, a assumé les souffrances de celui qui souffre par son corps capable de souffrir, et a détruit les passions de la chair, tandis que par son esprit qui ne peut mourir, il tua la mort homicide. C'est lui, en effet, qui, emmené comme un agneau et immolé comme un mouton, nous a rachetés de la servitude du monde comme de la terre d'Égypte, qui nous a délivrés de la soumission au diable comme de la main de Pharaon, et qui a marqué du sceau de son propre esprit nos âmes et de son propre sang les membres de notre corps, hein, comme les linteaux sur des portes. C'est lui qui a revêtu de honte la mort et mis le diable dans le deuil, comme Moïse l'a fait de Pharaon. C'est lui qui a frappé l'iniquité et rendu l'injustice stérile, comme Moïse l'Égypte. C'est lui qui nous a tirés de la soumission pour nous conduire à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la tyrannie au royaume éternel, qui a fait de nous un sacerdoce nouveau et un peuple élu éternel. C'est lui qui est la Pâque de notre salut. C'est lui qui en beaucoup a enduré beaucoup. C'est lui qui en Abel a été tué, qui en Isaac a été lié, qui en Jacob a été asservi, qui en Joseph a été vendu, qui en Moïse a été exposé, qui en l'agneau a été immolé, qui en David a été persécuté, qui à travers les prophètes a été méprisé. C'est lui qui s'est fait chair dans une vierge, qui a été suspendu au bois, qui a été enseveli en terre, qui est ressuscité d'entre les morts, qui a été élevé au plus haut des cieux. C'est lui qui est l'agneau sans voix. C'est lui qui est l'agneau massacré. C'est lui qui a été enfanté de Marie, la belle agnelle. C'est lui qui a été pris du troupeau, traîné pour être immolé, sacrifié le soir, enseveli la nuit, qu'on ne brisa pas sur le bois, qui ne se corrompit pas en terre, qui est ressuscité d'entre les morts, et du fond de son tombeau ressuscita l'homme. Pas mal, non? Bon, et ça continue, hein.
Qu'est-ce que ça veut dire, Moïse, exposé sur le bah,
exposé, oui, c'est ça. Ah bah, c'est-à-dire exposé dans son petit bateau, comme Jésus dans sa crèche. Et donc, c'est un peu l'idée. Donc, voilà pour Méliton de Sardes. Alors, on va passer au paragraphe 2. voyez, la grande idée, hein, c'est que le Christ accomplit les types comme l'antitype. Hein, les typoi, ce sont tous ces personnages de situation de l'Ancien Testament. Et lui, il est celui qui va leur donner le sens ultime, le sens plénier. Alors, passons donc aux apologistes latins, c'est le paragraphe 2. On les trouve surtout, on les trouve surtout dans l'Afrique, en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est la région la moins hellénisée. Donc, vous voyez, l'Afrique, quand on passe, je ne sais pas si vous vous souvenez du temps de Dioclétien, là, on a l'Empire coupé en deux, ça traverse les Balkans, entre la Croatie et la Serbie. Ça continue tout droit. Et puis, en bas, vous avez d'un côté la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Ce qui veut dire que la Libye actuelle, c'est... Enfin, elle a 20 siècles de non-existence, enfin, puisque la partie occidentale a toujours regardé vers l'ouest et la partie orientale vers l'est.
D'ailleurs, ça recommence.
Bah oui. Alors, donc, c'est la partie occidentale, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Cyrénaïque, qui sont les régions... donc non hellénisés, qui sont essentiellement latinisés, enfin quoi que difficilement, hein, parce que... Alors voyons d'abord en grand A les apologistes proprement dit, et le premier d'entre eux, qui d'ailleurs ne figure pas étonnamment sur ce livre-là, c'est Minucius Félix. Alors Minucius Félix, c'est un vrai Romain, donc un peu comme Tertullien. Donc à votre avis, quelle profession ?
Juriste.
Oui, voilà. Donc un vrai Romain, c'est un juriste africain, deuxième moitié du deuxième siècle, qui a écrit un dialogue très élégant entre trois jeunes gens, trois jeunes étudiants en droit d'ailleurs, dont un est chrétien, Octavius, qui a donné son nom au dialogue. Et il y a deux autres, Cecilius, qui est païen, et puis il y a Minucius, qui a le même nom que l'auteur, qui compte les points. Alors, on se retrouve au bord d'une plage à Ostie. Cecilius salue machinalement une idole et ses amis s'interrogent. Lui dit ne pas savoir qui est Dieu, alors il se rend aux pratiques traditionnelles qui sont le ciment de l'harmonie sociale. Voilà, c'est le fondement globalement du paganisme romain. Le mos maiorum, hein, voilà. Et alors il se fait l'écho des critiques contre les chrétiens. Alors il en profite qu'il a justement Octavius devant lui pour lui dire, de toute manière, d'abord vous êtes des gens populaires, grossiers, mal élevés, avec toutes les ragots habituels, hein, donc athées, etc. Et puis et auquel s'ajoute l'adoration d'un dieu à tête d'âne. Voilà, bon. Alors Octavius y répond et dit qu'avec le christianisme, on surpasse le doute, dont il dit que c'est l'horizon indépassable de la philosophie de l'Empire. Voilà. Donc il dit, vous condamnez de toute manière à jamais pouvoir dépasser le doute, parce que vous n'avez aucune certitude. Nous, on a une certitude qui nous vient de la foi. Et il va réfuter avec aisance les critiques grossières de Cecilius, si bien qu'à la fin, Cecilius se convertit.
C'est rapide celui-là.
Voilà. Et c'est une belle histoire. Il faut lire l'Octavius. Et alors Minucius, alors pas celui de l'histoire, mais l'auteur, va finalement lui fonder le christianisme uniquement sur la raison. Il ne cite dans ce dialogue jamais la Bible ni le christianisme ni le Christ. En fait, pour lui, c'est un dialogue purement philosophique où il dit on a la certitude d'avoir trouvé le vrai Dieu. Alors, il dit pas comment. Mais en s'appuyant sur la raison, il montre que une fois qu'on est parvenu au monothéisme, eh bien ça, c'est suffisant pour nier toutes les prétentions du polythéisme et que ça ne détruit pas le ciment social, au contraire, puisqu'il y a un dieu unique pour tous les peuples de l'Empire. Donc voilà notre Minucius Felix. Alors ça serait amusant de retrouver l'Octavius en latin pour voir si c'est...
Son public, enfin sa cible, si je puis dire.
Je pense que c'était les gens cultivés de son temps. C'est un juriste en général fréquentait la bourgeoisie locale. Et je pense que ce genre de dialogue était destiné à des gens cultivés.